VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean Roger Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La République démocratique du Congo doit inaugurer demain samedi son grand musée national dans un pays qui aborde avec réalisme le débat passionnel sur la restitution du patrimoine africain pillé pendant l'époque coloniale. Situé le long du majestueux boulevard Triomphal, à côté de l'Assemblée nationale, le Musée national de la République démocratique du Congo, MNRDC, a été construit par la Corée du Sud pour 20 millions de dollars. Le président du Mozambique est rattrapé par le scandale dit de la dette cachée qui a précipité son pays dans une grave crise financière. Philippe Nyusi est accusé à son tour d'avoir touché d'importants pots de vin dans cette affaire. Jacques Aristide.
Le chef de l'État mozambicain réélu le mois dernier a été mis en cause par l'homme d'affaires libanais Jean Boustany, jugé depuis la mi-octobre à New York. Il a identifié Philippe Nyusi parmi les bénéficiaires présumés de commissions occultes. Nous lui avons payé 1 million de dollars comme contribution à sa campagne électorale de 2014, a déclaré le principal accusé de cette affaire. La justice américaine accuse Jean Boustany d'avoir versé des dizaines de millions de dollars à de hauts responsables du régime de Maputo pour obtenir en 2013 et 2014 des contrats de livraison de navires de pêche et de patrouilleurs militaires. Le Mozambique a financé ses achats par un prêt de 2 milliards de dollars qu'il a délibérément caché à son Parlement et à ses partenaires financiers étrangers. Les déclarations de Jean Boustany ont fait l'effet d'une bombe au Mozambique. Un parti d'opposition a réclamé la démission du président Nyusi. De son côté, le parti au pouvoir, le Frelimo, a démenti l'implication du chef de l'État. Il reste calme et suit les événements, d'après un porte-parole du parti qui maintient qu'il n'a rien à voir avec la dette.
En Guinée-Bissau, les partisans des 12 candidats à la présidentielle de dimanche rivalisent d'ardeur pour inviter les citoyens à aller voter. Reportage de notre correspondante sur place, Indare Kaling Lopi.
Musique à fond. Les jeunes partisans du président José Mario Vage sont réunis à Bissau. Pour Dodo Ndiaye, plus que quelques heures pour tenter de convaincre.
Je milite activement parce que j'ai vu un homme qui en vaut la peine, José Mario Vage, parce que ses mains sont propres.
Réunion, campagne d'affichage. Depuis un an, le jeune partisan ne compte pas ses heures au service de José Mario Vage. Et il n'est pas le seul. Cheveux bouclés et allure soignée, Awa Kamara nous accueille dans son bureau du QG de campagne. À 33 ans, elle fait partie de la garde rapprochée du chef de l'État.
Personnellement, j'espère que José Mario Vage sera réélu. Il pourra réaliser son programme et aider la Guinée-Bissau.
Seulement, les précédentes élections ont été boudées par les plus jeunes. Lors des législatives de mars dernier, le taux d'abstention a dépassé les 15%. Mais Awa Kamara en est convaincu, le changement passe par les urnes.
Beaucoup de jeunes disent qu'ils ne vont pas voter. C'est parce qu'on sait d'avance qui va gagner. Mon conseil, c'est de dire aux jeunes d'aller voter.
Pourtant, cette génération entend faire bouger les lignes. Nouveau quartier général, mais toujours la même ambiance. Nous nous rendons à deux pas de la présidence, au siège du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ici, on milite pour Domingo Simon Pereira, l'un des principaux opposants à José Mario Vage.
En tant que jeune, on nous a donné la responsabilité de faire du porte-à-porte pour dire aux autres d'aller voter. Domingo Simoes Pereira nous a invités à le rejoindre, à participer pour faire avancer le pays.
Junior Keba Lopez est déterminé. Même chose pour Jenna Boumani, 25 ans.
Domingo Simoes Pereira est quelqu'un capable de diriger le pays, quelqu'un qui saura à résoudre les problèmes de la société, quelqu'un qui met en avant tout le monde sans distinction et mène une politique en faveur des femmes.
Sono hurlante, quel que soit leur parti, les jeunes militants bissau-guinéens continuent de sillonner la capitale et ce jusqu'à vendredi soir, dernier jour de campagne. Dari Kaling Lopi à Bissau pour VOA Afrique.
Trois des quatre partis de la coalition au pouvoir en Éthiopie établissent une base ethnique
ont décidé jeudi de fusionner en un seul parti, a annoncé le premier ministre Abiy Ahmed, qui avait initié ce changement, y voyant le moyen de renforcer l'unité du pays. Le nouveau parti créé pour succéder au Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, en vue des élections générales prévues en mai 2020, s'appellera le Parti de la prospérité, a indiqué M. Abiy. En cavale depuis plus de 20 ans, condamné à la prison à perpétuité, un couple franco-belge figurant parmi les personnes les plus recherchées en Europe pour le meurtre d'un ressortissant britannique en 1996 a été arrêté à Abidjan. Hilde Van Acker et Jean-Claude Lacote ont été condamnés en 2011 par défaut à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de Bruges pour le meurtre en 1996 dans la station balnéaire du Coq du ressortissant britannique Marcus John Mitchell, tué de 2 balles dans la tête.
Nos infos sur voaafrique.com.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump souhaite qu'un procès en destitution, impeachment, ait lieu au Sénat parce que le président américain bénéficiera alors d'une procédure régulière et il s'attend à ce que le candidat à l'investiture démocrate Joe Biden figure parmi les témoins, a dit jeudi la Maison-Blanche. Cette annonce intervient 8 jours après le début des auditions publiques au Congrès dans le cadre de l'enquête préalable à une éventuelle mise en accusation du président républicain. Si l'impeachment franchit l'obstacle de la Chambre, la majorité simple suffit pour cela. Un procès se déroulera alors au Sénat où les républicains sont majoritaires et où la majorité qualifiée des 2/3 est nécessaire. Pour que la procédure aboutisse, il faudrait donc qu'au moins 20 des 53 sénateurs républicains votent la destitution de M. Trump, en plus de la totalité des 45 élus démocrates et des 2 indépendants. En Israël, le procureur général a décidé hier soir de mettre en examen le premier ministre Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires. Claire Morin-Gibou.
Le procureur général Avishai Mandelblit a décidé d'inculper Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans l'affaire 4000, a indiqué le ministère de la Justice. Après des mois de suspense, Benjamin Netanyahou est devenu hier soir le premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à être inculpé pour corruption pendant son règne. Cette annonce est intervenue quelques heures après que le président israélien a demandé au Parlement de trouver un premier ministre. Monsieur Netanyahou et son rival Benny Gantz ont chacun échoué à former un gouvernement après les élections législatives de septembre. Selon la loi israélienne, Benjamin Netanyahou peut demeurer premier ministre malgré cette mise en examen, mais il ne peut pas devenir simple ministre dans un éventuel gouvernement de coalition. Cette inculpation pourrait toutefois minimiser les chances de Monsieur Netanyahou de rallier une majorité de députés de la Knesset pour se maintenir au pouvoir.
Deux jeunes chanteurs musulmans au sud de la Thaïlande, en proie à un conflit séparatiste qui a fait quelques 7000 morts, chantent aujourd'hui devant le pape François en visite dans le pays bouddhiste. La chorale se produira devant le pape à l'université Chulalongkorn, accompagnée d'étudiants de la faculté et de chrétiens de différentes minorités ethniques très nombreuses en Thaïlande. Le pape François a axé son voyage dans le royaume à plus de 95% bouddhistes, mais tolérant envers les autres cultes sur le dialogue interreligieux. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a invité jeudi les manifestants iraniens à transmettre aux États-Unis toute preuve de répression de la part du régime de Téhéran, assurant qu'ils sanctionneront ces abus. Des manifestations ont éclaté il y a près d'une semaine en Iran, quelques heures après l'annonce en pleine crise économique d'une forte hausse du prix de l'essence. Et la Chine a accusé aujourd'hui les États-Unis de provocation après le passage cette semaine de 2 navires de guerre près d'archipels revendiqués par Pékin en mer de Chine méridionale sur fond de tension entre les 2 pays. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine, une vaste zone également convoitée par Taïwan, les Philippines, Brunei, la Malaisie et le Vietnam. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque à tout à l'heure et bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.